Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Les vacances d'automne approchent et les plus chanceux d'entre vous se demandent peut-être quel mode de transport choisir pour migrer hors de la ville et ramasser en plein champ châtaignes et champignons. Si vous possédez votre propre voiture, la question ne se pose pas, quoiqu'au prix du carburant, l'omelette aux pleurotes risque de vous coûter un peu cher. Pour les autres, les transports collectifs restent la meilleure solution. En France, le transport de passagers sur longue distance a longtemps été l'apanage du train, avec un véritable monopole de la SNCF sur ce secteur. Il faudra attendre 2011 pour que les premiers bus longue distance émergent très discrètement dans ce paysage. Le cabotage, c'est le nom de cette activité, est alors soumis à de nombreuses conditions, on y reviendra. C'est en 2015 que les bus longue distance prennent une place centrale dans l'actualité, avec la loi du 6 août 2015 qui restera ou pas dans les mémoires sous le nom de loi Macron, du temps où le locataire actuel de l'Élysée n'occupait encore que Bercy. Dès les premières semaines qui suivent la promulgation de cette loi, des fusions entre les grands de ce secteur s'opèrent. Flixbus rachète Megabus, Webus rachète Starshipper, avant d'être lui-même racheté par Blablacar, etc. Notre invité s'est intéressé aux effets de ces fusions dites horizontales sur les prestations de ces compagnies en termes de fréquence notamment, mais aussi de prix ou de remplissage. Il nous en parle dans les 20 prochaines minutes. Thierry Blayac est économiste au Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. Thierry Blayac, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science. Elle aussi tient la distance à mes côtés pour mener cette interview. Aline Perriot, bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'un jour on aura les lancements auxquels vous avez échappé?
Je ne suis pas sûre. En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons à la station méditerranéenne de l'environnement littoral de Sète. Pendant plusieurs semaines, nous allons vous proposer de découvrir les différentes plateformes de cette infrastructure. Et pour ce premier épisode, nous vous proposons une petite visite historique de ce bâtiment magnifique. Enfin, notre invitée de dernière minute, s'appelle Sylvie Rapior. Elle nous parle du salon du champignon et des plantes d'automne quand je vous parlais d'omelette aux champignons. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Donc Thierry Blayac, la loi Macron a permis la libéralisation du secteur des bus longue distance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionnait avant 2015 et peut-être même avant 2011?
Donc avant 2011, il y avait très peu où le transport par bus longue distance était quasi inexistant. Le transport régulier par bus longue distance était quasi inexistant. Et c'est à l'occasion d'un règlement européen en 2011 que... ce mode de transport est apparu en France via ce que vous avez appelé dans votre lancement le cabotage. C'est-à-dire qu'une entreprise de bus ou d'autocar qui faisait la longue distance, par exemple, entre Berlin et Barcelone, pouvait s'arrêter sur le territoire français, prendre des passagers issus sur le territoire français, à condition de les redéposer au moins à plus de 100 km et dans deux régions différentes. Donc ça limitait très fortement le cadre de ce qui était autorisé par le transport collectif de bus longue distance régulier. À partir de 2015, ce qui est avec la loi Macron, ce qui est autorisé, c'est n'importe quel opérateur peut rentrer sur le marché et opérer des services réguliers de bus longue distance sans ces conditions-là qui étaient liées au cabotage. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'entrée d'un certain nombre d'opérateurs de bus longue distance.
Alors historiquement, pourquoi est-ce que ce secteur du bus longue distance, il n'est pas si développé que ça en France ?
Alors, historiquement, en France, on a préféré donner, on a privilégié le transport ferroviaire. On avait un réseau de ferroviaire qui était très développé, qui maillait assez bien le territoire, et donc on a privilégié le transport ferroviaire de passagers longue distance.
Et chez nos voisins en Europe, comment ils se portent ce secteur ? Il y a plus de recours aux bus longue distance ?
Alors, chez nos voisins, par exemple en Espagne, le réseau ferroviaire étant beaucoup moins développé, les services de bus longue distance réguliers ont opéré, mais sur un mode différent de celui sur lequel on opère aujourd'hui en France.
En 2015, quand Macron décide d'ouvrir ce secteur à la concurrence, c'est quoi son objectif, avoué ou inavoué ?
L'objectif, c'est de permettre à un certain type de population de voyager plus facilement, avec l'aspect le bus est plus abordable que le train, et puis avec une notion de maillage du territoire, c'est-à-dire un maillage spatial plus fin que l'actuel réseau ferroviaire qui s'est considérablement recentré sur la grande vitesse ferroviaire et qui a délaissé un peu en termes de qualité ou de fréquence ou de service les zones rurales. Donc je dis pas que le bus longue distance est destiné à la campagne, mais il permet quand même le maillage autorisé par la route, qui est aujourd'hui un réseau beaucoup plus maillé que le réseau ferroviaire.
Et concernant le public ciblé initialement, est-ce que c'est effectivement ce qu'on observe aujourd'hui ? On a un public modeste qui prend les bus ou...
Alors c'est à peu près effectivement le cœur de cible de la clientèle, avec une population jeune, d'étudiants ou sans activité professionnelle, et puis on a aussi des seniors. Et qui utilise ce mode de transport. On estime, dans les premières études qui ont été lancées par l'ART, l'Autorité de Régulation des Transports, montrent, dans les études réalisées au début, en 2017-2018, que à peu près entre 17 et 20% des usagers n'auraient pas voyagé si ce mode de transport-là n'avait pas existé. Donc il y a eu quand même un phénomène d'induction de demande auprès de ce type de clientèle.
Alors, dans votre étude, vous vous intéressez aux fusions qui ont accompagné cette libéralisation du secteur et vous citez les 5 grands opérateurs que vous appelez le club des 5. Donc, EasyLine, Eurolines, Webus, Starshipper, Flixbus et Megabus. Ces compagnies, c'est des compagnies françaises, des compagnies étrangères? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, on trouve des compagnies françaises comme Webus et EasyLine. Des compagnies étrangères comme Megabus, hein, qui est une compagnie britannique, et Flixbus, qui est un opérateur allemand. Starshipper, c'est une PME, c'est une association de PME d'autocaristes français, qui se sont spécialisés sur deux secteurs, le Rhône et l'ouest de la France.
Alors, donc les 4 grandes fusions qui nous intéressent, ce sont des fusions que vous qualifiez d'horizontales. Alors peut-être que déjà on va définir qu'est-ce que c'est une fusion horizontale.
C'est une fusion qui intervient au même niveau, c'est-à-dire qu'on parle d'opérateurs de services de transport longue distance. On les oppose traditionnellement aux fusions verticales. Dans les fusions verticales, c'est par exemple un producteur de boîtes de vitesse qui fusionnerait avec un constructeur automobile. Donc on n'intervient pas au même niveau de la chaîne de production ou de la chaîne de production du service, si on peut parler ainsi.
Alors ces fusions, elles vont commencer très vite, donc dès 2016, dès l'ouverture du marché. Donc on a Flixbus qui rachète les activités de Megabus, Webus qui rachète les activités de Starshipper. En 2018, c'est Blablacar qui rachète Webus. En 2019, Flixbus qui reprend EasyLine, Euroline. Alors quel est l'objectif de toutes ces fusions justement ?
Alors, quand on ouvre un marché ou qu'on ouvre un marché à la concurrence ou qu'on crée un marché, comme ça a été le cas par la loi Macron en 2015, les modèles, je dirais, théoriques que développent les économistes prévoient une entrée massive d'opérateurs et puis un phénomène de consolidation assez rapidement. Donc là, le marché du bus longue distance n'a pas échappé à la règle, donc on a eu une entrée massive d'opérateurs, 5 opérateurs nationaux et plusieurs dizaines d'opérateurs locaux hein, qui se sont spécialisés sur des niches du bus longue distance. Et puis très rapidement, 4 trimestres après l'ouverture du marché, on a assisté aux premières opérations de fusion. Donc celles que vous évoquez, Flixbus qui rachète les activités commerciales de Megabus et Webus de Starshipper. Et après, il a fallu attendre un peu plus, un peu 2-3 ans supplémentaires pour avoir d'autres opérations de concentration. L'objectif, c'est un marché qui n'existait pas, donc il a fallu induire de la demande. On a induit de la demande, une nouvelle demande en proposant des tarifs bas. Mais après, il faut atteindre le seuil de rentabilité. Et donc, on a des phénomènes de concentration entre opérateurs pour essayer d'atteindre cette rentabilité.
Alors, pour étudier ces fusions donc dans le secteur du transport en bus, vous avez consulté la littérature économique et notamment les rétrospectives de fusion des compagnies aériennes. Vous évoquez également le cas du chemin de fer. Est-ce qu'il y a des spécificités en termes de concurrence pour le secteur des transports ?
Alors oui, il y a des spécificités marquées puisqu'on est dans un domaine ce qu'on appelle les réseaux. Donc sur l'aérien, sur le ferroviaire, on a des infrastructures lourdes qui sont Et donc, on a une économie des réseaux. Donc, on a des économies d'échelle, des économies d'envergure, des économies de gamme et des économies de réseau. Donc, il y a des spécificités particulières à l'étude des fusions entre opérateurs dans le domaine du transport.
Alors, donc, pour étudier l'effet de ces fusions, celles dont on vient de parler, vous avez sélectionné trois variables que vous qualifiez de stratégiques. Les prix, les coefficients de remplissage et les fréquences. Donc déjà, pourquoi ces trois variables? Qu'est-ce qu'elles illustrent selon vous?
En fait, l'objectif de notre étude, c'est d'arriver à documenter le fait que ces fusions d'entre opérateurs, elles ne génèrent pas d'effet anticoncurrentiel. Donc c'est d'étudier qu'est-ce qui se passe finalement quand deux opérateurs fusionnent. Et en termes de prix, fréquence et taux de remplissage. Donc c'est vraiment des variables stratégiques, puisque l'aspect prix, c'est l'aspect recette par kilomètre, c'est l'aspect tarifaire, ça renvoie directement au surplus des usagers, au bien-être des usagers. L'aspect fréquence peut l'appréhender par un phénomène d'offre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'offre se développe ou est restreinte suite aux opérations de fusion? Et l'aspect taux de remplissage, c'est un critère d'efficacité pour les opérateurs. Donc, voilà pourquoi on a étudié ces trois variables.
Alors, donc les données sur les prix et les fréquences, on imagine que c'est assez facile à trouver. Les coefficients de remplissage, il faut les demander directement aux opérateurs. Comment vous les avez obtenus, ces chiffres?
Alors, ce qui est particulièrement bien fait dans la loi Macron, c'est le fait que le législateur a prévu dès l'ouverture à la concurrence, dès la création du marché, une remontée de données trimestrielles concernant les fréquences et les services opérés, et une remontée de données de la part des opérateurs annuels pour tout ce qui est, je dirais, bilan social et bilan humain, c'est-à-dire emploi, nombre de chauffeurs employés, etc. Donc c'est ce cadre réglementaire qui permet de récupérer des données fiables, trimestriellement ou annuellement. Et dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé des données issues de l'autorité de régulation des transports, l'ART, et donc on a des données exclusives qui couvrent la totalité du marché sur 8 trimestres consécutifs depuis l'ouverture de la concurrence jusqu'au dernier trimestre de l'année 2017.
Et donc pour pousser cette analyse, vous avez utilisé une approche qu'on appelle DID, analyse par différence de différence. Qu'est-ce que c'est?
Alors c'est une analyse, ce qu'on appelle ça des études quasi-expérimentales, c'est une analyse qui en fait identifie un groupe de traitement et un groupe de contrôle. Donc le groupe de traitement pour nous c'est les lignes ou les relations sur lesquelles il y a eu des fusions entre opérateurs, et le groupe de contrôle c'est un groupe dans lequel ces opérations-là n'ont pas eu de concentration ou de fusion n'ont pas eu lieu. Et on regarde ce qui se passe avant les fusions et après la fusion dans les deux groupes. Donc c'est ce qu'on apprécie dans le cadre des idées, des doubles différences, c'est l'évolution différentielle du groupe de traitement par rapport au groupe de contrôle après les fusions.
Alors justement, vous avez observé que ces fusions, elles ont eu pour effet immédiat d'augmenter les prix, quand même plus 13,5% au premier trimestre 2016, qui s'est stabilisé après autour de 5,3%. On s'attendrait à l'inverse dans un processus comme ça de libéralisation. Comment est-ce qu'on l'explique, cette hausse des prix?
Alors, vous avez raison, dans la phase d'induction, c'est-à-dire quand il y a entrée des firmes sur le marché, il y a une politique de prix agressive des opérateurs, donc on peut avoir des prix faibles, mais à partir du moment où il y a des opérations de concentration, c'est bien ce qui nous intéresse dans cet article, c'est de savoir ce qu'il en est. Donc, le but du papier, c'était de savoir si finalement ces fusions produisaient des effets anticoncurrentiels, c'est-à-dire néfastes pour le consommateur et néfastes pour le bien-être plus général de la collectivité. Et c'est ce qu'on a identifié. Donc ce qu'on montre, c'est que, en termes de prix ou de recettes par passager kilomètre, ce qu'on montre, c'est que le premier trimestre qui suit les opérations de fusion, il y a effectivement une augmentation des prix forte, 13,5%, mais cet impact sur les prix a tendance à diminuer, puisque 4 trimestres après les opérations de fusion, on n'est plus qu'aux alentours de 4,5-5%. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il reste que ces opérations de concentration ou de fusion entre opérateurs ont généré des effets anticoncurrentiels.
Alors, vous observez ensuite la fréquence des bus, et là, pareil, on assiste à un effet auquel on ne se serait pas attendu. Donc, dès le deuxième trimestre 2016, la baisse de fréquence des bus donc, varie entre 21,5% et 25,7%. Comment on l'explique aussi? C'est le même mécanisme?
Alors, c'est effectivement un mécanisme de, je dirais, rationalisation de l'offre. Les opérateurs fusionnent, donc il y a plus, au lieu d'avoir 4 noms, on n'en a plus que 2. Donc, ils restructurent un peu l'organisation du réseau, les services qu'ils proposent. Et là aussi, cette diminution des fréquences peut être perçue comme un phénomène anticoncurrentiel qui va aller contre le bien, enfin qui va être, avoir un impact négatif sur le bien-être des consommateurs.
Et alors pour votre troisième indicateur stratégique, qui était le taux de remplissage des bus, est-ce que la baisse de fréquence dont on vient de parler, elle a conduit à un meilleur taux de remplissage ?
Alors, oui, mais donc on constate que le taux de remplissage augmente, mais il n'augmente pas de manière différente dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle. Donc en fait, cet effet sur l'augmentation des taux de remplissage des bus n'est pas dû aux opérations de fusion, il est dû à une plus grande maturité du marché, c'est-à-dire le fait que le marché du bus longue distance trouve sa clientèle, ça devient un service qui est pour lesquels les consommateurs sont avec lesquels le consommateur est familier, donc qu'il l'utilise, mais ce n'est pas dû aux opérations de fusion.
Alors, donc globalement, si on résume, on observe des effets plutôt anticoncurrentiels, donc avec cette ouverture du marché. Est-ce qu'on observe le même comportement ailleurs en Europe ?
Alors, l'Allemagne, le marché allemand évolue à peu près de la même façon, avec une entrée importante d'opérateurs à l'ouverture du marché, puis des phénomènes de concentration, et on est quasiment sur un marché de type monopolistique pour ce qui est de Flixbus en Allemagne. Les autres opérateurs sont vraiment concentrés sur des marchés de niche, c'est-à-dire sur des dessertes locales ou très spécifiques.
Alors aujourd'hui, on est 8 ans après la loi Macron. Est-ce qu'on pourrait dire que le secteur du bus longue distance, il a trouvé sa vitesse de croisière en termes de rentabilité, par exemple ?
Alors, en termes de rentabilité, c'est encore particulier. Aujourd'hui, on est dans un duopole entre Blablabus et Flixbus. La rentabilité devrait arriver sous peu. Il faut quand même avoir en tête que 2019 et 2020, c'est l'arrivée du Covid. Et donc aujourd'hui, au deuxième semestre 2023, on est à peine en train de retrouver les chiffres de fréquentation de l'année 2019. Donc on est encore dans un mouvement qui est en train d'épurer les effets Covid en termes de fréquentation et de nombre de passagers transportés.
Et est-ce qu'on a une idée de la part du marché des transports longue distance qu'il occupe ?
Alors, c'est toujours difficile ça, mais on estime que le bus, c'est à peu près sur l'année 2022 aux alentours de 9 millions de passagers transportés. Donc, en termes de part de marché, c'est toujours difficile. On sait que la cible privilégiée a été atteinte, c'est-à-dire que c'est des étudiants ou des personnes avec des ressources relativement modestes qui l'utilisent. Et surtout, on sait que le trajet moyen en bus, c'est aux alentours, c'est le bus longue distance, c'est pas 1000 km, c'est plutôt entre 280 et 350 km. C'est ça le cœur du cible du transport en bus longue distance.
Alors, le chemin de fer est lui aussi en pleine ouverture à la concurrence, depuis un moment déjà. Est-ce qu'on peut s'attendre là aussi à des effets anticoncurrentiels comme ce que vous avez montré avec les bus ?
Alors, c'est un peu différent parce que dans le cadre du marché du bus, le marché n'existait pas, on est rentré, donc il a fallu créer ce marché de toutes pièces, induire de la demande. Dans le cadre du marché de ferroviaire, on est sur des... Alors, on parle de la grande vitesse ici, on est une entrée d'opérateurs, de quelques opérateurs sur les lignes qui sont les plus rentables, c'est-à-dire du Lyon-Paris ou du Bordeaux-Paris, avec un faible nombre de fréquences, mais par contre une augmentation en termes de qualité, c'est-à-dire que les nouveaux opérateurs ont fait le choix de ne pas venir concurrencer la SNCF en prix, mais plutôt en termes de qualité. Donc c'est un autre modèle que développent les économistes.
Alors justement, je reviens à ces fusions de bus dont on parle depuis tout à l'heure. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Elles n'ont pas été examinées par l'Agence française de la concurrence. Pourquoi ?
Parce que le marché étant naissant, pour que l'agence de la concurrence soit l'autorité de concurrence soit saisie, il faut que ces opérations de fusion dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires. Et comme c'est un marché débutant, on était en dessous de ces seuils-là.
D'accord, donc si on avait observé le même genre d'effet donc avec le chemin de fer, pardon, là l'autorité de la concurrence y serait intéressée de plus près, j'imagine.
Elle, sans doute, mais ça ne veut pas dire qu'elle les aurait refusé parce qu'on est dans un marché naissant et donc on est dans une phase de consolidation. C'est, je veux dire, l'évolution naturelle d'un marché, c'est quand on l'ouvre, c'est une entrée, puis des fusions, et pour arriver à quelque chose qui trouve une maturité et une rentabilité et qui permet à la fois aux consommateurs et aux usagers de voyager, et à la fois aux opérateurs d'être rentables. Donc c'est un point d'équilibre à trouver.
Un grand merci Thierry Blayac pour ces éclaircissements passionnants.
Merci à vous.
À bientôt dans Allume la science. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, Aline, nous sommes partis à la station méditerranéenne de l'environnement littoral.
Et oui, pour notre première série de reportages, nous avons fait avec Lucie une excursion à 7 où nous poussons jusqu'à la pointe courte pour visiter la station méditerranéenne de l'environnement littoral, la SMEL. Et aujourd'hui, nous commençons avec Sébastien Masse, son directeur, qui nous raconte l'histoire de cette infrastructure de recherche unique nichée dans un cadre exceptionnel.
Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Alors, Sébastien Masse, je suis ingénieur de recherche CNRS et je suis le directeur de la station méditerranéenne de l'environnement littoral. C'est un site délocalisé de l'Université de Montpellier, puisqu'on est basé à 7, et qui est géré par l'Observatoire des sciences de l'univers de Montpellier, donc l'OSULOREM. Et donc la SMEL est une plateforme de services pour les équipes de recherche locales et nationales, pour tout ce qui est secteur socio-économique et privé, avec différentes missions donc de formation, activités observation et activités expérimentation.
Donc là, vous nous emmenez faire une petite visite, c'est ça?
Oui, on va visiter, puis je vais vous expliquer un petit peu l'historique de la station.
Complètement, déjà, on est interpellé par la beauté du bâtiment.
C'est une des plus anciennes stations marines de France. Le début de la construction a commencé en 1879 et s'est terminé en 1904. Ça a été initié par Armand Sabatier, qui était professeur à l'Université de Montpellier. Et le but, c'était de comprendre et d'étudier les tantôt.
Donc ce bâtiment, ça a toujours été une station marine?
Oui, au départ, elle s'appelait la station zoologique de Sète. C'était un lieu de science, mais également de culture scientifique, puisque Armand Sabatier voulait partager ses découvertes avec la ville de Sète et puis les alentours. Donc il y avait un musée au rez-de-chaussée et on pouvait descendre dans des aquariums.
On va décrire un peu. Donc là, on a le bâtiment sur notre droite, la lagune est juste en face, on se trouve où exactement?
C'est la pointe courte, alors en fait sur la plagette. Et on est les pieds dans la lagune de Thau et à la sortie du canal de Sète qui mène à la mer. Au niveau du bâtiment, le temps n'a pas eu trop d'effet sur lui, puisque vous voyez la façade, elle n'est pas trop abîmée, il y a quelques endroits où c'est usé par le vent, le sel, mais c'est assez bien conservé. On a 4 étages, le sous-sol où il y avait les aquariums, maintenant c'est des laboratoires. Le rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est salle de cours et salle de TP, donc pour tout ce qui est formation. Premier étage, c'est bureau et un peu de labo. Et au dernier étage, c'est la salle de conférence. Anciennement, il y avait des chambres.
Juste sur notre gauche, qu'est-ce qu'on y trouve?
Le hall d'aquaculture, où là, on a tout ce qui est R&D, également formation en aquaculture.
Et alors, juste derrière nous, il y a une tour en bois, on dirait un grenier à foin avec une grande échelle en métal. Là, qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est l'ancien château d'eau. Parce qu'à l'époque, ils prélevaient l'eau de l'étang, ils stockaient l'eau dans le château d'eau qui alimentait des bassins. Ensuite, on a des bâtiments où c'est tout ce qui est atelier technique. Et puis, on a également des laboratoires pour les équipes de recherche qui viennent. En fait, c'est des laboratoires qui sont vides. Il y a juste des paillasses. Et en fait, les équipes de recherche viennent avec leurs équipements, se posent pour...
Des résidences scientifiques, quoi.
Exactement, c'est ça. Ensuite, on est équipé d'un ponton. Donc le ponton de la station sert pour les observations, puisqu'on a des capteurs qui sont sous le ponton pour mesurer en continu les paramètres physico-chimiques de l'étang. Donc ça nous permet de voir les variations de température, salinité, oxygène, chlorophylle, donc tout ce qui est biologique, pour essayer de les relier aux aléas climatiques et aux événements extrêmes. Des crues, fort vent, voilà.
On a l'impression qu'il est fait tout en cagette en plastique. On peut marcher sur toute la partie plastique?
Oui, on peut marcher, on peut aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Et en plus, ils servent également pour accoster le bateau. Donc, et pour à chaque flotteur, on peut y tâcher des instruments ou d'autres équipements.
Flotteur, c'est beaucoup mieux que cagette de plastique. Oui, voilà. Ok, juste sur notre gauche, là, donc on voit, il y a une jolie petite maisonnette en pierre.
Alors ça, c'est les locaux techniques. Première salle, c'est les pompes. Donc on pompe l'eau au niveau du canal, donc c'est de l'eau de qualité marine. On est à 30 mètres du bord et à peu près 4 mètres de profondeur. On pompe l'eau qui est amenée pour tout ce qui est formation en aquaculture. Ensuite, le deuxième local, c'est le local pour les plongeurs, donc pour se changer, pour se laver.
Qu'on ira voir tout à l'heure avec votre collègue.
S'équiper. Et ensuite, on a le local moyen à la mer pour tout ce qui est équipement lié au bateau. Voilà.
Vous êtes combien à travailler alors à la semelle ?
Alors, nous sommes 10. Il y a deux personnes pour la formation du service formation continue de l'université et 8 de l'Ozulurem.
Est-ce que quand on vient là tous les jours, on oublie à quel point c'est beau ?
Oui, oui, oui. Et puis, ouais, on est dans un cadre magnifique. Mais oui, on oublie, ouais, en effet.
Et j'accueille maintenant notre invitée de dernière minute, et c'est Sylvie Rapior, professeure à la faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier, qui nous présente la 43e édition du Salon du champignon et des plantes d'automne qui se tiendra les 21 et 22 octobre prochains, donc ce week-end. Sylvie Rapior, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour à vous.
Alors, donc, pour commencer, on l'a dit, il s'agit d'une 43e édition, c'est pas rien, 43 éditions. Alors, qui organise ce salon depuis tant d'années ?
Alors, il y a un partenariat qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années entre la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault et la Faculté de pharmacie de Montpellier.
Alors, qu'est-ce qu'on va y voir dans ce salon ce week-end ? J'imagine qu'il y a des expositions ?
Il y a plusieurs expositions, des expositions de champignons frais qui seront déterminées au public s'ils viennent avec leurs cagettes, des plantes, soit des fleurs et ou des fruits, tout dépendra puisque c'est une saison où on peut avoir les deux. Vous aurez également des insectes, des traces de géologie qui seront mises à disposition du public. Donc géologues, entomologues, botanistes et mycologues seront les bienvenus.
Donc, vous avez dit que le public pouvait arriver avec sa cagette. Donc, si on va chercher des champignons ce week-end-là, on peut venir et les identifier avec les spécialistes.
Exactement. Au contraire, pour nous, ça va alimenter notre exposition et cela permettra aux personnes qui ont ramassé les champignons de ne pas se tromper entre comestibles, toxiques et mortels.
Et on sait qu'il y a beaucoup de faux amis.
Exactement.
Alors, il y aura également deux conférences. La première aura lieu le samedi à 16h et donnera la parole à Michel Nicole pour parler de la face cachée des orchidées. Alors, pour commencer, qui est Michel Nicole ?
Alors, Michel Nicole est le président de la Société française d'orchidophilie du Languedoc. Et il va vous parler donc des orchidées qui exercent chez l'homme une fascination de par leur beauté, leur odeur et leur écosystème.
Et on le comprend. Alors la seconde sera consacrée à l'hydne. L'hydne, c'est pas facile à dire. L'hydne hérisson, un champignon aux propriétés neuroprotectrices prometteuses. C'est bien ça ?
Oui, c'est Maya Cavalier qui est une récente docteure en pharmacie, qui a eu son diplôme de docteur en pharmacie par l'Université de Montpellier, qui a fait sa thèse d'exercice sur ce champignon comestible qui a des propriétés médicinales multiples avec des potentiels à envisager, bien sûr, sur l'homme, mais avant sur le matériel cellulaire et animal.
Vous pouvez juste m'aider, alors comment ça se prononce, une hydne ?
Voilà, hydne.
C'est dur.
Oui, hérisson, et je ne vous dirai pas le nom latin ici.
On ne va pas essayer. Ensuite, alors ces conférences et ce salon en général, ils s'adressent à qui ? Donc on a compris qu'on pouvait venir avec ces champignons, mais les conférences, c'est pareil, elles sont grand public ?
Ce sont des conférences grand public. Cela s'adresse à des naturalistes, à des personnes qui ont envie d'apprendre, à tous les étudiants de l'université de Montpellier ou des autres universités qui souhaiteraient acquérir des connaissances, tant en botanique qu'en mycologie.
Alors, deux petites choses à noter cette année. Donc, la première, c'est un changement de lieu, c'est ça ? Donc, ça ne se passera pas à la faculté de pharmacie ?
Tout à fait. La faculté de pharmacie est en grands travaux et exceptionnellement, cette année, le salon va avoir lieu à l'Institut de botanique qui se situe rue Auguste Broussonnet.
Deuxième petite chose à noter, en raison d'une triste actualité dont tout le monde a entendu parler, bien sûr, le plan Vigipirate impose donc des mesures de sécurité.
Oui, il va y avoir un contrôle qui sera mis en place à l'entrée du salon les samedis et dimanches, avec une fouille peut-être des sacs et peut-être d'autres démarches que nous apprendrons dans les jours suivants dans le cadre de la posture d'urgence attentat.
Très bien, merci beaucoup Sylvie Rapior et à ce week-end donc à l'Institut de Botanique.
J'espère vous y voir. Au revoir Lucie.
Au revoir et merci encore. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.